à Rencontre spirituelle aujourd'hui, une petite émission qui aborde presque en surface la question très très difficile de la femme et de l'Église. Je ne sais pas pourquoi je m'aventure sur des sentiers difficiles comme ça, mais il y a des choses que j'ai lues et qui m'ont beaucoup intéressé et je voulais vous en faire part parce que ce sont des choses, je pense, que l'on néglige, que l'on oublie trop facilement. Mais avant de commencer, je voudrais vous signaler de très beaux livres sur la question, en particulier Plein feu sur le partenariat en Église, c'est paru aux éditions Pauline. Ce sont les actes du symposium qui avait comme titre le partenariat hommes et femmes en Église qui s'est tenu à l'Université Laval l'an dernier, je crois, et c'est vraiment extrêmement intéressant. En 1996 et au mois à la fin d'août 96 à l'Université Laval, il y avait 125 personnes. Alors, les actes sont parus aux éditions Pauline. C'est très intéressant à lire. Il y a toutes sortes de points de vue nouveaux qui nous éclairent sur cette recherche qui progresse sans cesse. Il y a aussi une brève histoire des femmes chrétiennes que j'ai beaucoup aimée, qui est parue aux éditions du Cerf. Brève histoire des femmes chrétiennes. Très, très, très intéressant, captivant. Et puis, Dieu au féminin aussi. Ce sont des images féminines de Dieu dans la Bible par Virginia Remy Mullencott. C'est aux éditions Pauline encore. Très, 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 très intéressant de voir comment il y a des aspects féminins chez Dieu qui sont très beaux, très nobles, très riches. Je vous en parlerai d'ailleurs un peu. Je voudrais commencer en nous rappelant cette parole très importante. La vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, à ses disciples, il nous le dit à chacun de nous, encore aujourd'hui, sans doute. Car sa parole est toujours vivante. Et il nous dit ça comme si ça n'allait pas de soi. Ce qui va pas de soi, surtout de nos jours, je pense, c'est de connaître la vérité. Oh mon Dieu, qu'on en a peur de la vérité. C'est le Christ qui disait « Je suis la vérité » et c'est le Christ qui est bafoué, rejeté facilement. On ne veut pas entendre ce qu'il a à nous dire, qui sont pourtant les meilleurs conseils de bonheur. Et on a tant écrit sur le rôle et la dignité de la femme. On a tant de fois réclamé aussi son égalité avec l'homme, puis accusé l'Église d'être à l'origine de cette espèce d'effacement qu'il me semble indispensable de commencer par rectifier ce qui est erroné. On a écrit toutes sortes d'erreurs à ce sujet. Oui, il me semble qu'on doit d'abord se pencher avec calme, beaucoup de calme, calmons-nous, sur le passé de l'homme et de la femme. On doit étudier avec loyauté, il me semble, et sans parti pris aussi, les civilisations antiques, et étudier surtout le rôle joué par la femme. Un grand rôle. Il faut mettre en lumière tout ce qu'a apporté des législations qui remontent au 19e siècle, finalement. Alors, on s'aperçoit avec étonnement, parce que la presse puis les moyens de propagande ont caché la réalité, on s'aperçoit que non seulement la femme a joué un rôle éminent dans le développement des sociétés, mais aussi, oui, que l'Église a été le facteur déterminant de son émancipation, je le répète, l'Église a été le facteur déterminant de son émancipation au cours des siècles. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, qui croient que je raconte des sornettes, et pourtant, c'est la femme qui a toujours transmis la culture, la morale, et les traditions vivantes. Même dans des civilisations musulmanes où la femme connaît un effacement certain, c'est sûr. Hein? Son influence, tant sur les enfants que sur le mari, est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît au premier abord. Toutefois, on nous raconte, dans des nouvelles qui viennent d'Égypte, ce grand pays musulman, où il y a une minorité chrétienne quand même importante, que sont les Coptes, plusieurs millions, mais c'est un très grand pays. Eh bien, la violence contre les femmes est, pour ainsi dire, monnaie courante en Égypte. Ça demeure occulté dans une société où ce qu'on appelle l'honneur de l'homme est primordial. C'est ce qu'affirment les sociologues et de nombreuses femmes égyptiennes au Caire. C'est Aïda Saif Al-Dala, une psychiatre au centre Al-Nadim, qui est spécialisée dans la rééducation des victimes de la violence sociale, qui déclare « Viol, femmes battues ou tuées par leurs époux en Égypte et excision des jeunes filles font partie de notre vie quotidienne et ne suscitent que l'indifférence générale. » Je ne dis pas ça pour accuser les musulmans, je veux simplement montrer la différence qui peut exister entre deux civilisations. Officiellement, on dit que 48 femmes soupçonnées d'avoir trompé leurs époux en Égypte ou d'avoir eu des relations sexuelles avant le mariage ont été tuées au début des années 90, c'est-à-dire en 92, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Or, leur nombre est en fait, dit-on, beaucoup plus élevé. C'est les Égyptiens qui l'admettent. Hein? Car à la campagne, disent-ils, de tels meurtres ne sont jamais divulgués. Qui dit ça? C'est un sociologue du Centre national de recherche sur la criminalité en Égypte, Ahmed Al-Makdoub. Et le quotidien Egyptian Gazette, qui est publié en anglais, affirme même que chaque jour, une femme est tuée par son mari en Égypte. Madame Saif Al-Dala, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette psychiatre déclare qu'une femme qui tue son mari est un phénomène extraordinaire, repris dans toute la presse, mais le contraire passe inaperçu. Et ce sentiment est partagé par Madame Amina Shafik, qui est représentante d'Amnesty International en Égypte. C'est triste quand on pense à ça. Elle dit « Personne ne se demande pourquoi une femme tue son mari. Pourtant, combien d'entre elles, ayant attendu plusieurs années leur époux travaillant dans le Golfe, ont été abandonnées avec leurs enfants à son retour. Ayant un peu d'argent en poche, cet homme a aussitôt cherché une nouvelle épouse. Je comprends la frustration qui peut conduire des femmes à un acte désespéré, ajoute Madame Amina Shafik. Il y a une avocate aussi, Amira Bahé-Hedine, qui déclare que le code pénal égyptien est foncièrement défavorable à la femme. Un homme tuant sa femme pour adultère risque de 24 heures à 3 ans de prison, mais une femme, dans les mêmes circonstances, peut se voir condamnée à 25 ans de réclusion. Je répète que je ne lis pas ça parce que je veux accuser les Égyptiens. Je veux simplement montrer que l'influence chrétienne dans nos pays a transformé bien des choses qui sont acquises. Et comme tout n'est pas acquis, on croit que rien n'est acquis. C'est faux. Le christianisme a fait beaucoup depuis les tout débuts. On le voit dans le Nouveau Testament. Madame Chef Al-Dala, toujours cette psychiatre, qui dit que cette discrimination juridique en Égypte démontre que la société considère la femme comme inférieure à l'homme. Et elle s'indigne que la notion de l'honneur bafoué ne s'applique qu'à l'homme. Est-il croyable, le ministre de la Santé, Ali Abdallah Fattah, est-il croyable qu'après toute la polémique sur l'excision lors de la conférence sur la population en septembre 1994 au Caire, le ministre de la Santé demande plutôt, lui, la promulgation d'une loi légalisant, c'est lui qui demande la promulgation d'une loi légalisant cette loi. Et c'est comme ça que Madame Saif al-Dallah se proteste contre ce ministre de la Santé. C'est pire, ajoute-t-elle, la société fait assumer à la femme la responsabilité du viol sous prétexte qu'elle l'a sans doute provoqué par son comportement ou sa tenue. Et lorsqu'il y a 2 ans, une jeune fille a été violée à une station d'autobus au cœur du Caire, les gens ayant pris sa défense étaient obligés d'invoquer le fait qu'elle était voilée et accompagnée de sa mère. Je pourrais continuer comme ça, mais je termine avec une dernière déclaration de Madame Saif al-Dallah, la psychiatre. Les femmes battues, la plupart du temps, ne demandent pas le divorce faute de choix. En Égypte, c'est l'homme qui répudie la femme. Si cette dernière veut divorcer, la procédure peut durer près de 10 ans. Ça n'excuse pas ce qui ne va pas ici, mais ça nous donne une idée. Vous savez que si on regarde ce qui se passe dans la culture juive ou hébraïque qui est transmise uniquement par les femmes, on s'aperçoit que le rôle de la femme chez les juifs, le rôle de la mère de famille est mis sur un piédestal. Et puis, il y a aussi, pensons-y, sur la terre, les grands-mères russes, les babas de cette grande Russie qui ont tant fait au XXe siècle et font encore pour maintenir la religion chrétienne dans un pays où tout ce qui était religieux était considéré comme suspect, sinon détruit purement et simplement, et ce sont les femmes russes. Vous direz, c'est bien beau, elles ont défendu la religion. Oui, elles ont défendu ce qui compte pour donner un sens à la vie. Autrement, on tombe dans le néant, la négation du sens et l'alcool, la vodka et le désespoir. Hein? D'ailleurs, c'est un peu comme ça ici. Tout ce qui est religieux, n'est-ce pas, est suspect. Au Québec, de plus en plus, on ne détruit pas grand-chose, mais on a détruit, il y a déjà plusieurs années, les chapelles de nos collèges. Il n'en reste plus. J'ai vu la chapelle du collège Brébeuf où j'ai tant prié. Je l'ai vu il y a quelques heures et c'est épouvantable. Terrible. C'est devenu une salle d'examen. Le plafond a été surbaissé, sans doute faciliter le chauffage. Il n'y a plus qu'une toute petite chapelle pour cet immense collège qui est 2 fois plus grand qu'il ne l'était quand j'étais là. Donc les femmes russes ont fait beaucoup. Elles ont si bien travaillé, ces bonnes babas, comme on les appelle, dans le secret puis la discrétion, qu'il y aurait, savez-vous, plus de pratiquants de nos jours en Russie soviétique, toute proportion gardée, qu'au Québec, et même qu'en France, où on pratique un peu plus qu'ici. Mais à quoi les femmes sont-elles occupées à travers les siècles? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont occupées à tout, savez-vous. Mais ça, on ne le dit pas assez souvent. Elles se sont occupées à toutes les activités de l'homme. Et contrairement à ce que je regrette d'appeler les ignorants pensent aujourd'hui, l'homme n'a pas cherché à leur interdire de s'imposer pourvu qu'elle l'ait vraiment voulu. Sans doute que vous ne me croyez pas, mais pourtant. Pourtant, pensez, disons, aux saintes des premiers siècles. On peut commencer par pointer les noms des femmes, comme dit un auteur dans Le Petit Larousse. Le Petit Larousse a retenu pour le 2e et 3e siècle de l'ère chrétienne des noms étonnants. Zénobie de Palmyre. Je lui dis, bon, on n'en parle même plus. Oui, mais elle était une femme importante, elle était reine de l'Orient. Elle était une épouse d'empereur. Et elle avait des responsabilités énormes. Et le Petit Larousse, cite le nom de 19 femmes, et les 19 sont des saintes. Bon, vous direz, ce sont des saintes, donc c'est pas intéressant. Certaines d'entre vous, peut-être. Mais c'est étrange à première vue que l'histoire n'ait trouvé pour jalonner deux siècles que des saintes chrétiennes. Pourquoi? C'est plein de signification, ça. Ces saintes sont toutes des martyrs. Vous direz que c'est sans intérêt, elles sont des martyrs, elles sont mortes. Mais toutes, elles sont mortes comment? Par la force de leur foi. Il y avait une force, une énergie. Des malins diraient une grande virilité, mais j'ai horreur de ces expressions appliquées aux femmes. C'est pas de la virilité, c'est une féminité solide. C'est le caractère propre de la femme qui est grand courage, qui est fermeté, solidité. Et il y a aussi, elles sont sorties, quand on pense, ces femmes-là, des servitudes de ce qu'on appelle le clan à l'époque, ou des servitudes de la famille. Et elles ont affirmé leur personnalité au péril de la mort violente, parce qu'elles ont été jugées perverses et antisociales. Elles étaient très audacieuses. Elles avaient refusé le mariage, qui était pratiquement obligatoire. C'est pas que je prêche qu'on refuse le mariage. Ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'elles allaient à l'encontre des choses reçues. Au nom de Jésus-Christ, évidemment. Au nom d'un amour supérieur. Dans le sens qu'elles voulaient être dévouées auprès des plus pauvres et des plus délaissés. Et si 19 chrétiennes des 2e et 3e siècles qu'on retrouve dans le Petit Larousse, et toutes celles qu'elles symbolisent, qui sont bien plus nombreuses, ont conquis à la femme cette liberté de choisir. C'est très important, dit-on, la liberté de choisir. Aujourd'hui, bien, elles avaient la liberté de choisir, oui, de choisir, et de se construire une personnalité propre à l'encontre de ce qu'on pensait. On n'y pense pas assez à ça, ce détail. C'est quelque chose qu'il faut quand même signaler. Pensez à toutes ces femmes que l'on considère comme des protectrices de ce qu'on appelle la cité au 4e et 5e siècle. Je reviens toujours à mon petit Larousse, qui cite encore des saintes entremêlées d'impératrices chrétiennes, les unes et les autres femmes de gouvernement, là, surtout en Orient. Hein, il y a Eudoxie, Pulchérie, également la régente Galla Placidia, fille de Théodose. Et durant un temps, elle a été prisonnière du barbare Alaric. Hein. Et déjà, aussi, il y a les protectrices des villes, des cités et des peuples, hein, Sainte Geneviève, qui est la patronne de Paris. Deux fois sauvée par Sainte Geneviève, Paris. Hein. Et la fameuse Sainte Brigitte de Kildare, prodigieuse personnalité, qui était reconnue par sa patrie, l'Irlande, comme la plus grande Irlandaise de tous les temps. Elles sont les premières d'une longue série qui a tant fait pour civiliser les barbares, pour civiliser les barbares. Vous direz que c'est pas vrai, que j'invente et que c'est des histoires à dormir debout. Pas vrai du tout, c'est authentique. Elles étaient des modèles et elles étaient suivies. Geneviève meurt en l'an 502. Clotilde, elle a 27 ans. C'est déjà le 6e siècle. Le siècle des femmes, oui, c'est un siècle des femmes, le 6e siècle, saviez-vous ça? Et cette femme de 27 ans, dans ce siècle, on peut dire, ce siècle se termine plus tard que le 6e siècle, se termine au début du 7e siècle, en 630, avec la mort atroce de Brunehaut, cette fille de l'Espagne visigothe. Et Brunehaut et sa sœur, Galsvint, qui était mariée à 32 ans et à 28 ans avec des chefs francs de la Gaule, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, elles ont apporté à leurs époux barbares ce qu'elles ont pu de la culture latine qui fleurissait alors à la cour de Tolède. Et l'Espagne, d'ailleurs, a été riche de femmes de premier plan, le saviez-vous? Elles ont pu donner leurs mesures en partie grâce au droit wisigoth, qui, à situation égale, accordait aux femmes l'équivalence avec les hommes, ça le saviez-vous, hein? Ça, on peut lire ça dans des livres intéressants. Régine Pernoud, cette femme admirable, qui écrit des livres superbes, parle de toutes ces questions-là. Quand on lit Régine Pernoud, on voit ça. Et puis il y a, connaissez-vous l'abbesse de Las Huelgas? Voici par exemple le statut de cette abbesse de Las Huelgas, tel qu'il ressort des documents officiels. Hein? Je vous lis le texte. L'abbesse était dame. Dame, ça dénote déjà quelque chose. Prélat, elle était prélat. Administrateur légal, administrateur spirituel, administrateur temporel du monastère royal de Las Huelgas et de son hôpital. Elle était aussi administrateur des couvents, des églises, des ermitages de sa filiation. Elle était administrateur des villages et des lieux de sa juridiction, des manoirs et des vasselages, en vertu de bulles et concessions apostoliques, c'est-à-dire qui lui avaient été adressées par le pape lui-même, avec juridiction qu'elle avait exclusive et plénière, quasi-épiscopale, ne dépendant d'aucun diocèse et jouissant de privilèges royaux. Elle avait une double juridiction exercée en possession indiscutée, comme il est notoirement connu. C'est le texte de l'époque. Aimeriez-vous que je vous relise tout ça? Non. C'est fantastique quand on y pense. C'est absolument extraordinaire, hein? Mais ça a existé. Vous direz que c'est un cas exceptionnel. Il y en avait beaucoup plus qu'on pense. Pensez à toutes les Québécoises qui ont administré ici des hôpitaux, qui ont géré des entreprises à l'étranger dans des missions. Vous direz que c'était des religieuses. Bien oui. Et c'est l'Église qui façonnait ces femmes et qui en leur donnait cette puissance, cette volonté d'agir et de transformer le monde. D'accord, elles portaient un voile. C'était des Québécoises quand même. On peut revenir au petit Larousse encore, ou à n'importe quelle chronologie. On l'a minutieusement vérifié sur des milliers de noms échappés à l'oubli. De l'an 630, je vous ai dit tout à l'heure, à 780, pendant 150 ans, c'est le vide, là, jusqu'à l'apparition à Byzance, c'est-à-dire à Constantinople, si vous voulez, aujourd'hui Istanbul, en Turquie, jusqu'à l'apparition de l'impératrice Irène, oui, Irène, qui suscite un concile. Hein? Seule dans ce siècle incapable, c'est elle... Une femme, Irène, qui réunit, inspire et préside un concile écuménique, vous savez ce que c'est? Le deuxième concile de Nicée en 787. Quel âge avait-elle, Irène? Elle avait alors 35 ans. Et dire que certaines personnes qui oublient l'histoire prétendent à la suite de Simone de Beauvoir et de quantité d'autres comme celle qui vient de mourir hier aux États-Unis, que la religion chrétienne a été une source d'oppression pour la femme et que son pire ennemi était le clergé. Qu'en pensez-vous, chère abbesse de Las Huelgas, qui convoquiez des synodes, et vous, impératrice Irène, qui présidiez un concile écuménique? Hein? On vous a malheureusement oublié. On vous a oublié. Avec la fin du pouvoir de l'impératrice Irène en 802, puis, c'est pas drôle, là. Il arrive une autre impératrice qui s'appelle Théodora, qui provoque un important synode à Constantinople. C'est elle qui mène ça. Un synode important à Constantinople en 843. Mais c'est un homme, Charlemagne, qui prend la relève en Occident. Et les femmes disparaissent pour un siècle de la scène de l'histoire et du petit Larousse, sauf à Rome, où malheureusement la papauté est avilie, elle est conduite, elle est blessée, régentée, pour bien l'avouer, hein, m'excuse auprès des femmes. C'est par la comtesse Théodora, là, et ses deux filles, qui s'appellent Théodora la Jeune, puis Marousie. Je ne m'étends pas sur cette question triste. Mais connaissez-vous Mathilde, qui réconcilie le pape et l'empereur? Imaginez, c'est des rôles, ça se suscite pas simplement comme ça. Il faut que la femme ait déjà une certaine liberté et une certaine importance. Je dis pas qu'elle avait tout, mais je dis qu'il faut quand même regarder les deux côtés de la médaille. Oui, c'est une femme, Mathilde, qui a traîné la papauté dans la boue, Théodora, qui a traîné la papauté dans la boue, mais 150 ans plus tard, c'est une autre femme, Mathilde, qui rend tout son éclat à la papauté, c'est la grande comtesse Mathilde. Elle vient de Toscane. C'est dans son château de Canossa que l'empereur Henri, peut-être vous en avez déjà parlé, qui est venu faire sa pénitence célèbre en 1077 auprès du pape. Cette même année, Mathilde n'avait que 22 ans. Et elle tire la leçon des événements. Et elle fait donation de tous ses états au Saint-Siège. C'est qu'elle veut que le pape ait un certain pouvoir pour éviter les abus qui se faisaient partout contre les pauvres et les gens simples. Alors le triste exemple de Théodora puis de Marousie, là, les enfants de l'autre Théodora, avait montré à quel point à l'époque féodale, un pape sans territoire pouvait être la proie aussi de toutes sortes de factions. Ça lui prenait des territoires à l'époque. C'est dommage, mais c'est une époque comme ça. Puis il y a l'âge d'or de la femme, dont Régine Pernoud a beaucoup parlé. La grande comtesse Mathilde meurt, elle, en 1115. On vous a parlé de ça, mais hier, 1112, vous vous souvenez de la date, c'est l'entrée de Bernard à Cîteaux. Saint Bernard de Clairvaux qui entre tout jeune, à 22 ans, je crois, à Cîteaux, avec 30 personnes, ses 5 frères, son oncle, ses cousins, des amis, des chevaliers. Alors, 3 ans plus tard, donc, Mathilde meurt, c'était une femme exceptionnelle, par la trempe de son caractère. Elle avait une hauteur de vue remarquable. Mathilde, c'était une femme très instruite. Vous direz que c'est pas possible. Mais oui, elle connaissait le latin, le français, l'italien et l'allemand. Et dans une époque en évolution rapide, là, elle garde le goût de la lecture, puis de l'éducation permanente tout au long de sa vie. N'oubliez pas que c'était une époque où il n'y avait que des manuscrits. Une grande bibliothèque, c'était 500 volumes ou 300 volumes. Précision aussi très importante, son instruction lui a été donnée par sa mère, donc une autre femme, qui s'appelait Béatrice de Bar, ou Bar-le-Duc, si vous voulez. Il y a donc à nouveau, à ce moment-là, au XIIe siècle, des milieux où les lettres et le savoir sont à l'honneur. Et ces milieux sont féminins. Le saviez-vous? C'est alors, en effet, qu'a commencé l'éclosion, on peut dire, du plus admirable féminisme, dont le caractère merveilleux va illuminer le XIIIe siècle. L'âge d'or de la femme, je vous rappelle, lisez bien Régine Pernoud. C'est aussi l'époque de l'histoire chrétienne, où quelqu'un que les féministes n'aiment pas malheureusement, la Vierge Marie. C'est donc l'époque où l'histoire chrétienne où la Vierge Marie va être exaltée. Écoutez bien, elle sera exaltée, on le dit bien, au-dessus de toute louange. Comme la femme idéale. Notre-Dame au-dessus de tous les hommes. Au-dessus de tous les hommes. Et voici que vers 1250, en plein milieu du XIIIe siècle, il y a une nouvelle récession des femmes qui s'amorce, là. Dommage. Mais l'Espagnol de génie Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, elle meurt 2 ans plus tard, en 1252. Et sa sœur, qui est vraiment remarquable, Bérangère, qui est la mère de Saint-Ferdinand de Castille, meurt, elle, un peu plus tôt, en 1244. Et c'est la fin d'une époque. Il va falloir attendre qui? Jeanne d'Arc. Quelle femme! Quelle femme jeune que Jeanne d'Arc. D'où vient que cette femme puisse faire ce qu'elle a fait? Si la femme était vraiment considérée comme la dernière des dernières, imaginez-vous une femme en milieu musulman qui se dresserait comme ça? Imaginez-vous ça dans les autres civilisations? Il n'y a que dans le christianisme, dans le catholicisme, à l'époque, il n'y avait pour ainsi dire que des catholiques, qui pouvaient susciter de telles choses. Donc, Jeanne d'Arc, près de 2 siècles plus tard, qui accomplit une véritable renaissance de l'activité féminine notoire. C'est très important de le savoir et de le noter. Ça n'est pas qu'une simple petite génération spontanée unique. Il y a d'autres femmes autour. Mais voilà qu'il y a la chute au 18e siècle. D'accord. D'accord. Au fur et à mesure que l'on approche de notre temps, un plus grand nombre de personnalités sont retenues par l'histoire, mais cependant, dans une progression, on discerne clairement une espèce d'alternance avec la montée des femmes entre 1520 et 1560, puis le recul jusque vers 1600, date aux environs de laquelle meurt la grande et dure Élisabeth d'Angleterre, Élisabeth Ire. Le nom marque toute une période, la période élisabéthaine. Si l'on prend soin d'éliminer l'espèce de faux éclat de l'abus des favorites des rois, là, on peut situer une nouvelle montée des femmes entre les années 20 et 60 du 18e siècle, 1720-1760, puis la chute profonde au 18e siècle, sauf en Europe centrale avec Marie-Thérèse, puis en Orient avec Catherine la Grande. Mais le bouillonnement de la période révolutionnaire, puis napoléonienne, prépare la poussée féminine de la première moitié du 19e siècle que la reine Victoria, là, qui est une espèce de créatrice du gentleman pudique et distingué, va pousser aux limites du 20e siècle. Il faut bien reconnaître que le 19e siècle misogyne a été plutôt pénible. Les carrières techniques nées au 19e siècle ont été monopolisées par les hommes, il faut bien l'avouer, qui en ont défendu l'accès par un réseau très poli mais implacable. Mais le christianisme disparaissait petit à petit à la même époque. Ce sont les femmes religieuses qui perçaient dans la société, celles qui entraient dans des ordres religieux catholiques ou peut-être même anglicans. Il y avait des passages interdits aux femmes laïques. Qu'on pense au code Napoléon, au droit de vote exclusivement masculin, aux lois spécifiquement masculines, à toutes ces grandes écoles polytechniques et de médecine qui dressaient des barrières de diplômes réservés. Pourtant, il y a 2 prix Nobel de physique et de chimie, Marie Curie et Irène Joliot-Curie. Mais elles n'ont pas réussi à démanteler ces barrières au début du siècle. C'est peut-être cette législation masculine extrêmement dure qui explique pour une part que tant de jeunes filles de caractère et d'initiative n'ont pas émergé, c'est triste. Alors que dans le secteur religieux, je vous le rappelle, elles ont pu donner, très souvent, toute la mesure de leur vitalité créatrice. On ne rend pas assez hommage aux Québécoises et des grands ordres religieux, que ce soit les filles de Marguerite Bourgeois, ou de Marguerite Dioville, 2 saintes canadiennes, québécoises, filles d'autres congrégations remarquables ou des hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Je vous parlerai de l'une d'entre elles, sœur Marie-Thérèse Rivet, demain, une femme exceptionnelle. Des femmes québécoises qui ont été extraordinaires. toutes ces fondatrices, souvent très jeunes au siècle dernier, au début de ce siècle, fondatrices de congrégations éducatrices et hospitalières, je vous en ai raconté plusieurs, et j'espère que vous avez été émus, peu importe qu'elles aient eu des costumes, des coiffes et des crucifix au cou et des chapelets à la taille, peu m'importe, ce sont des femmes, et des femmes québécoises qui ont été debout grâce au christianisme et à l'Église. Elles ont été, dans les seules années 1800-1860, plus nombreuses que dans 15 siècles réunis. Le saviez-vous? On en parle si peu, si peu. C'est le christianisme et le catholicisme en particulier qui a suscité ces femmes. Or, la femme, elle est gardienne de la culture, je vous l'ai dit au début, je le répète. En schématisant au maximum, on constate la présence féminine dans l'histoire, non pas disséminée au hasard, mais suivant une courbe continue avec des hauts et des bas. Elle atteint un sommet aux alentours de l'an 600, quand les femmes acclimatent les barbares. Il y a un autre sommet 600 ans plus tard, vers 1200, lorsque les femmes façonnent ce qu'on appelle le prud'homme de Saint-Louis. C'est comme ça qu'on parlait. Puis, un moindre sommet deux siècles plus tard, vers 1400, lorsqu'elle sauve l'Europe du désespoir et de l'anarchie. Et c'est ce que j'espère que les femmes feront, car nous sommes dans le désespoir et l'anarchie. Encore un sommet deux siècles plus tard, en 1600, d'où est issu ce qu'on appelle l'honnête homme de Louis XIV, puis à des périodes moindres, mais du même genre, et durant ces époques fluides, où l'humanité passe, on peut dire, d'un stade de vie à un autre, puis où, par conséquent, les hommes sont accaparés par des tâches techniques. Ce sont les femmes qui se soucient de culture et qui prennent la relève de la civilisation. Vous savez que ce sont souvent des femmes qui avaient tenu des salons culturels. C'est les femmes qui étaient les éducatrices, tant au foyer qu'à l'école. Elles ont rempli des rôles humble, mais grandiose, les plus importants, les plus centraux. Est-ce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui élève son enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Dites-le-moi. S'il y a quelque chose de plus beau qu'une femme qui élève son enfant. Moi, je n'en vois pas. Je ne vois rien. Vous me direz, il y a le sacerdoce. Oui, peut-être. Mais le sacerdoce féminin de la mise au monde d'un enfant éternel. Et de son éducation, c'est tellement grandiose. Comme je rends hommage à ma mère, à toutes les mères. Quand l'homme, dominé par les techniques, devient barbare, par le mot technique et par le mot barbare, j'évoque des situations bien différentes, apparemment, mais elles sont identiques dans le fond, hein. Aussi bien l'homme de guerre au Moyen-Âge, qui était fier de ne rien connaître, d'être un parfait illettré. Car la même main ne peut tenir, évidemment, une plume, écrire ou un manuscrit, puis étudier, et tenir en même temps l'épée. Hein. Alors, ils tenaient l'épée, ces hommes-là. Ils étaient des abrutis. Comme aujourd'hui, certains de nos sportifs qui tiennent un hockey ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que ça donne, tout ça? Il y a l'homme d'affaires, l'ingénieur, qui n'ont pas le temps de lire. Quand on a des conventums au collège et qu'on retrouve nos confrères de classe, qui ont consacré leur vie à des carrières où ils n'ont pas eu le temps de lire et d'étudier, on s'aperçoit qu'à l'âge de 70 ans, il ne leur reste presque plus rien qu'un gros rire gras et la satisfaction d'avoir une belle maison à la campagne, un condominium en Floride, etc., etc. Bon, ils ne sont pas tous comme ça. Mais c'est triste. C'est triste. Quand donc l'homme dominé par les techniques devient barbare, parce que incertain sur l'avenir, puis dépassé aussi par le présent, il ne faut pas le blâmer, il a voulu fournir à son foyer ce qu'il fallait, mais c'est pas épanoui. C'est la femme qui vient prendre la relève dans le foyer. Que ce soit autrefois la châtelaine, qui apprend et qui s'informe auprès des troubadours puis des trouvères, ou que ce soit les étudiantes qui se précipitent aujourd'hui à l'université pour y étudier, les lettres, l'histoire, les sciences humaines, le génie, la médecine, le droit, ou bien les connaissances hospitalières qui sont plus près peut-être de son cœur, au sens le plus vaste du mot. Elles deviennent de femmes médecins souvent remarquables. Elles sont aussi, dans les maisons, des femmes au cœur tendre qui accueillent les visiteurs et qui savent nous recevoir avec tant de grâce. Vous direz que ça n'a pas d'importance. Moi, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Mais elles sont surtout souvent beaucoup supérieures aux hommes dans toutes sortes de domaines de la connaissance. La femme revendique alors inconsciemment, évidemment, les droits du cœur et de l'esprit, de la finesse et de l'art. Ce qu'à des temps classiques, on appelle l'humanisme, on appelait ça l'humanisme autrefois. Mais c'est dans cette quête, il me semble, d'un humanisme nouveau, dont elle a plus que l'homme, souvent, l'intuition créatrice, la femme plus que l'homme subit la solitude de cette bataille pour la vie de demain. Elle témoigne, par le meilleur et par le pire d'elle-même, d'un authentique besoin besoin nouveau, d'un appel à la vraie réponse. Mais la vraie réponse, est-ce qu'elle l'a laissé tomber, la femme? Est-ce qu'elle l'a laissé tomber? Grave question, on ne sait plus trop. Quel est le rôle de la femme dans le plan de Dieu? Nous verrons ça. Mais quel est le rôle de la femme dans le plan de Dieu d'après ce qu'on dit un peu partout, qui me semble le plus clair? Mais j'ose dire avec l'Église que l'Église est mère avant tout, qu'elle ne veut que le bonheur de ses enfants. Mais le bonheur vient de Dieu, on l'oublie. C'est lui qui, dans sa grande sagesse et sa grande bonté, a créé l'être humain, homme et femme, pour qu'ils parviennent ensemble. Comment? Dans l'harmonie. Qu'ils parviennent dans l'harmonie et la complémentarité à ce bonheur qui nous est promis, qui est éternel. Et j'ose ajouter que Dieu a un plan sur l'humanité, sur la femme plus précisément. Il existe donc ce qu'on peut appeler une théologie de la femme, mais qui a ses variantes, je l'avoue, mais qu'il importe de toute façon de découvrir, puis de mettre en lumière, afin d'aider toutes les femmes de la terre à trouver le bonheur et la joie. Et il est bien évident que si l'on cherche une ouverture ou un développement qui n'est pas conforme au plan de Dieu, mais la femme n'atteindra ni son plein épanouissement, et ni la sérénité indispensable. Indispensable à quoi? Oh, je vais faire crier du monde. Indispensable à la cellule familiale, la famille. Et elle n'atteindra non plus la joie à laquelle elle est appelée, si elle n'est pas conforme au développement de Dieu, au plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Église et ces vieux hommes qu'on appelle les papes, mais qui sont pas fous, c'est la raison pour laquelle l'Église, donc, depuis de nombreuses années, n'ont cessé de rappeler avec force et douceur la voie dans laquelle il faut s'engager. Et j'ose donc dire que l'enseignement de l'Église a été suivi jusqu'à nos jours, et l'on ne peut que constater un certain échec de l'humanité, c'est qu'on n'a pas vraiment suivi. On a vu bien des erreurs. Et à l'exemple, de toute façon, de Marie, mais on n'aime pas comparer la femme à Marie, mais moi je la compare quand même, la femme doit être médiatrice d'amour, source de fécondité matérielle et spirituelle, pour réaliser sa mission sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le concile le disait, L'Église est fière d'avoir magnifié et libéré la femme à travers les siècles et d'avoir fait resplendir au cours donc des siècles dans la diversité des caractères son égalité foncière avec l'homme. Ça n'est pas parfait, mais ça s'est fait à l'encontre des autres civilisations, je vous l'ai signalé au début. Mais nous sommes tombés dans des excès nouveaux. Et je lisais l'an dernier, il y a moins d'un an, il y a quelques mois, que les magazines féminins, les plus importants d'Angleterre, font de la femme un objet sexuel. Et c'est dit ça par Kenneth Minogue, ancien professeur à la prestigieuse université London School of Economics. C'est un article absolument à lire et on se rend compte que les grands universitaires déplorent que la femme soit devenue de petit à petit dans bien des milieux dans notre société. Rien de moins et rien de plus qu'un objet sexuel dans des revues, des films. Et l'homme n'est devenu, on le voit dans d'autres articles, qu'un macho et qu'un être désobligeant, désagréable. On ne sait plus ce qu'on transmet comme message, et pourtant, c'est pas ça le vrai message, c'est le message que l'Église donne. Je me demande où on s'en va, mais si on n'écoute pas la parole de l'Église, la femme et l'Église, dans de très beaux livres comme « Dieu au féminin, image féminine de Dieu dans la Bible », « Brèves histoires des femmes chrétiennes » par Suzanne Tunk, T-U-N-C, ou bien ce livre très récent qui plein feu sur le partenariat en Église, « Les actes du symposium tenu à l'Université Laval » aux éditions Pauline, mais tant d'autres, eh bien, je crois qu'on s'en va vers un certain désert.